Bria Savarin, physiologie du goût. Aphorisme du professeur pour servir de prolégomène à son ouvrage et de base éternelle à la science. 1. L'univers n'est rien que par la vie, et tout ce qui vit se nourrit. 2. Les animaux se repaissent, l'homme mange. L'homme d'esprit seul sait manger. 3. La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. 4. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. 5. Le Créateur, en obligeant l'homme à manger pour vivre, l'y invite par l'appétit et l'en récompense par le plaisir. 6. La gourmandise est un acte de notre jugement par lequel nous accordons la préférence aux choses qui sont agréables au goût sur celles qui n'ont pas cette qualité. 7. Le plaisir de la table est de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les pays et de tous les jours. Il peut s'associer à tous les autres plaisirs et reste le dernier pour nous consoler de leur perte. 8. La table est le seul endroit où l'on ne s'ennuie jamais pendant la première heure. 9. La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile. 10. Ceux qui s'indigèrent ou qui s'enivrent ne savent ni boire ni manger. 11. L'ordre des comestibles est des plus substantiels aux plus légers. 12. L'ordre des boissons est des plus tempérées aux plus fumeuses et aux plus parfumées. 13. Prétendre qu'il ne faut pas changer de vin est une hérésie. La langue se sature, et après le troisième verre, le meilleur vin n'éveille plus qu'une sensation obtuse. 14. Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil. 15. On devient cuisinier, mais on est rôtisseur. 16. La qualité la plus indispensable du cuisinier est l'exactitude. Elle doit être aussi celle du convié. 17. Attendre trop longtemps un convive retardataire est un manque d'égard pour tous ceux qui sont présents. 18. Celui qui reçoit ses amis et ne donne aucun soin personnel au repas qui leur est préparé n'est pas digne d'avoir des amis. 19. La maîtresse de la maison doit toujours s'assurer que le café est excellent et le maître que les liqueurs sont de premier choix. 20. Convier quelqu'un, c'est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous notre toit. Bria Savarin, Physiologie du goût. Préface. Pour offrir au public l'ouvrage que je livre à sa bienveillance, je ne me suis pas imposé un grand travail. Je n'ai fait que mettre en ordre des matériaux rassemblés depuis longtemps. C'est une occupation amusante que j'avais réservée pour ma vieillesse. En considérant le plaisir de la table sous tous ses rapports, j'ai vu de bonne heure qu'il y avait là-dessus quelque chose de mieux à faire que des livres de cuisine, et qu'il y avait beaucoup à dire sur des fonctions si essentielles, si continues, et qui influent d'une manière si directe sur la santé, sur le bonheur, et même sur les affaires. Cette idée mère, une fois arrêtée, tout le reste a coulé de source. J'ai regardé autour de moi, j'ai pris des notes, et souvent, au milieu des festins les plus somptueux, le plaisir d'observer m'a sauvé des ennuis du convivia. Ce n'est pas que, pour remplir la tâche que je me suis proposée, il n'ait fallu être physicien, chimiste, physiologue, et même un peu érudit. Mais ces études, je les avais faites sans la moindre prétention à être auteur. J'étais poussé par une curiosité louable, par la crainte de rester en arrière de mon siècle et par le désir de pouvoir causer, sans désavantage, avec les savants, avec qui j'ai toujours aimé à me trouver. « Venez dîner avec moi jeudi prochain, » me dit un jour M. Greffuhl. « Je vous ferai trouver avec des savants ou avec des gens de lettres, choisissez. »«
Ah, mon choix est fait, » répondis-je.
« Nous dînerons deux fois. » Ce qui eut effectivement lieu, et le repas des gens de lettres, était notablement plus délicat et plus soigné. Je suis surtout médecin amateur. C'est chez moi presque une manie, et je compte parmi mes plus beaux jours celui où, entré par la porte des professeurs et avec eux à la thèse de concours du docteur Cloquet, j'eus le plaisir d'entendre un murmure de curiosité parcourir l'amphithéâtre, chaque élève demandant à son voisin quel pouvait être le puissant professeur étranger qui honorait l'assemblée par sa présence. Il est cependant un autre jour dont le souvenir m'est, je crois, aussi cher. C'est celui où je présentais au conseil d'administration de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale mon irrorateur, instrument de mon invention, qui n'est autre chose que la fontaine de compression appropriée à parfumer les appartements. J'avais apporté dans ma poche ma machine bien chargée. Je tournai le robinet et il s'en échappa avec sifflement une vapeur odorante qui, s'élevant jusqu'au plafond, retombait en gouttelettes sur les personnes et sur les papiers. C'est alors que je vis avec un plaisir inexprimable les têtes les plus savantes de la capitale se courber sous mon irroration, et je me pâmais d'aise en remarquant que les plus mouillés étaient aussi les plus heureux. En songeant quelquefois aux graves élucubrations auxquelles la latitude de mon sujet m'a entraîné, j'ai eu sincèrement la crainte d'avoir pu ennuyer. Car moi aussi, j'ai quelquefois bâillé sur les ouvrages d'autrui. J'ai fait tout ce qui a été en mon pouvoir pour échapper à ce reproche. Je n'ai fait qu'effleurer tous les sujets qui ont pu s'y prêter. J'ai semé mon ouvrage d'anecdotes, dont quelques-unes me sont personnelles. J'ai laissé à l'écart un grand nombre de faits extraordinaires et singuliers qu'une saine critique doit faire rejeter. J'ai réveillé l'attention en rendant claires et populaires certaines connaissances que les savants semblaient s'être réservées. Si, malgré tant d'efforts, je n'ai pas présenté à mes lecteurs de la science facile à digérer, je n'en dormirai pas moins sur les deux oreilles, bien certain que la majorité m'absoudra sur l'intention. On pourrait bien me reprocher encore que je laisse quelquefois trop courir ma plume et que, quand je compte, je tombe un peu dans la garrulité. Est-ce ma faute à moi si je suis vieux? Est-ce ma faute si je suis comme Ulysse qui avait vu les mœurs et les villes de beaucoup de peuples? Suis-je donc blâmable de faire un peu de ma biographie? Enfin, et il faut que le lecteur me tienne compte de ce que je lui fais grâce de mes mémoires politiques, qu'il faudrait bien qu'il lût comme tant d'autres, puisque, depuis 36 ans, je suis aux premières loges pour voir passer les hommes et les événements. Surtout, qu'on se garde bien de me ranger parmi les compilateurs. Si j'en avais été réduit là, ma plume se serait reposée, et je n'en aurais pas vécu moins heureux. J'ai dit, comme Juvénal, « Semper ego auditor tantum, nunquam ne reponam. » Et ceux qui s'y connaissent verront facilement qu'également accoutumé au tumulte de la société et au silence du cabinet, j'ai bien fait de tirer parti de l'une et de l'autre de ces positions. Enfin, j'ai fait beaucoup pour ma satisfaction particulière. J'ai nommé plusieurs de mes amis qui ne s'y attendaient guère. J'ai rappelé quelques souvenirs aimables, j'en ai fixé d'autres qui allaient m'échapper, et comme on dit dans le style familier, j'ai pris mon café. Peut-être bien qu'un seul lecteur, dans la catégorie des allongés, s'écriera « J'avais bien besoin de savoir si... à quoi pense-t-il en disant que... etc., etc. » Mais je suis sûr que tous les autres lui imposeront silence et qu'une majorité imposante accueillera avec bonté ces effusions d'un sentiment louable. Il me reste quelque chose à dire sur mon style, car le style est tout l'homme, dit Buffon, et qu'on ne croit pas que je vienne demander une grâce qu'on n'accorde jamais à ceux qui en ont besoin. Il ne s'agit que d'une simple explication. Je devrais écrire à merveille, car Voltaire, Jean-Jacques, Fénelon, Buffon et plus tard Cochin et D'Aguesso ont été mes auteurs favoris. Je les sais par cœur. Mais peut-être les dieux en ont-ils ordonné autrement. Et s'il en est ainsi, voici la cause de la volonté des dieux. Je connais, plus ou moins bien, 5 langues vivantes, ce qui m'a fait un répertoire immense de mots de toute livrée. Quand j'ai besoin d'une expression, et que je ne la trouve pas dans la case française, je prends dans la case voisine. Et de là, pour le lecteur, la nécessité de me traduire ou de me deviner. C'est son destin. Je pourrais bien faire autrement, mais j'en suis empêché par un esprit de système auquel je tiens d'une manière invincible. Je suis intimement persuadé que la langue française dont je me sers est comparativement pauvre. Que faire en cet état? Emprunter ou voler? Je fais l'un et l'autre, parce que ces emprunts ne sont pas sujets à restitution,
et que le vol de mots n'est pas puni par le code pénal. On aura une idée de mon audace quand on saura que j'appelle « volante » de l'espagnol tout homme que j'envoie faire une commission et que j'étais déterminé à franciser le verbe anglais « to sip » qui signifie « boire à petite reprise » si je n'avais exhumé le mot français « siroter » auquel on donnait à peu près la même signification. Je m'attends bien que les sévères vont crier à Bossuet, à Fénelon, à Racine, à Boileau, à Pascal et autres du siècle de Louis XIV. Il me semble les entendre faire un vacarme épouvantable. À quoi je réponds posément que je suis loin de disconvenir du mérite de ces auteurs, tant nommés que sous-entendus. Mais que suit-il de là? Rien. Si ce n'est qu'ayant bien fait avec un instrument ingrat, ils auraient incomparablement mieux fait avec un instrument supérieur. C'est ainsi qu'on doit croire que Tartini aurait encore bien mieux joué du violon si son archet avait été aussi long que celui de Bayeux. Je suis donc du parti des néologues et même des romantiques. Ces derniers découvrent les trésors cachés, les autres sont comme les navigateurs qui vont chercher au loin les provisions dont on a besoin. Les peuples du Nord, et surtout les Anglais, ont sur nous à cet égard un immense avantage. Le génie n'y est jamais gêné par l'expression. Il crée ou emprunte. Aussi, dans tous les sujets qui admettent la profondeur et l'énergie, nos traducteurs ne font-ils que des copies pâles et décolorées. J'ai autrefois entendu, à l'Institut, un discours fort gracieux sur le danger du néologisme et sur la nécessité de s'en tenir à notre langue telle qu'elle a été fixée par les auteurs du bon siècle. Comme chimiste, je passais cette œuvre à la cornue, et il n'en resta que ceci. Nous avons si bien fait qu'il n'y a pas moyen de mieux faire, ni de faire autrement. Or, j'ai vécu assez pour savoir que chaque génération en dit autant, et que la génération suivante ne manque jamais de s'en moquer. D'ailleurs, comment les mots ne changeraient-ils pas quand les mœurs et les idées éprouvent des modifications continuelles? Si nous faisons les mêmes choses que les anciens, nous ne les faisons pas de la même manière. Et il est des pages entières, dans quelques livres français, qu'on ne pourrait traduire ni en latin ni en grec. Toutes les langues ont eu leur naissance, leur apogée, leur déclin. Et aucune de celles qui ont brillé, depuis Sésostris jusqu'à Philippe Auguste, n'existe plus que dans les monuments. La langue française aura le même sort, et en l'an 2825, on ne me lira qu'à l'aide d'un dictionnaire. Si toutefois on me lit. J'ai eu à ce sujet une discussion à coups de canon avec l'aimable M. Andrieux de l'Académie française. Je me présentais en bon ordre, je l'attaquais vigoureusement, et je l'aurais pris s'il n'avait fait une prompte retraite à laquelle je ne mis pas trop d'obstacles, m'étant souvenu, heureusement pour lui, qu'il était chargé d'une lettre dans le nouveau lexique. Je finis par une observation importante. Aussi l'ai-je gardée pour la dernière. Quand j'écris et parle de moi, au singulier, cela suppose une confabulation avec le lecteur. Il peut examiner, discuter, douter et même rire. Mais quand je m'arme du redoutable « nous », je professe. Il faut se soumettre. I am, sir, Oracle. And when I open my lips, let no dog bark. Shakespeare, Le Marchand de Venise, acte 1, scène 1.